Bonsoir, les travailleurs de la Société commerciale de transport et des ports SCTP ex-ONATRA disent oui à la réforme et non au démembrement de leur entreprise tel que l'envisage le gouvernement. Ils s'opposent à l'appel d'offres lancé par le gouvernement pour la privatisation des ports de Boma, de Matadi, de Kinshasa et du chemin de fer Matadi-Kinshasa. Comment analyser cette situation? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce lundi 26 octobre 2015. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Lambert Osango, président de l'intersyndicale de la SCTP, ex-ONATRA. Monsieur Osango, bonsoir.
Bonsoir.
Albert Lié, qui est responsable de la communication au comité des pilotages pour la réforme des entreprises publiques, copyright en sigle. Monsieur Lié, bonsoir.
Du portefeuille de l'État, madame. Bonsoir.
Merci. Et Israël Moutala, journaliste et analyste économique et politique. Monsieur Moutala, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Merci de nous suivre par ton RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Capi.
Pour participer à l'émission, appelez-les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les travailleurs de la Société commerciale de transport et des ports SCTP en sigle s'opposent au démembrement de leur entreprise tel que l'envisage le gouvernement. Ils l'ont affirmé lors de leur assemblée générale vendredi dernier à Kinshasa. Cette assemblée intervient après la réunion des discussions entre les syndicalistes et les cabinets du Premier ministre, du ministre du portefeuille, ainsi que les experts du CopyRep. Plus de détails avec vous, Innocent Olenga.
Le banc syndical de la SCTP qui restituait aux travailleurs cette réunion de discussion avec les cabinets d'Augustin Matata Ponyo et de Louise Munga est formel. L'appel d'offres de la mise en concession intégrée de la SCTP doit être annulé. Ce n'est pas tout. Il exige également que la gestion de la redevance logistique terrestre soit confiée au comité de gestion de l'entreprise. Les syndicalistes ne s'expliquent pas que cette taxe qui a déjà généré plus de 40 millions de dollars américains serve à autre chose qu'au redressement de l'entreprise, sa mission première. Les recettes de cette taxe révèlent les bancs syndicales ont fait lancer la part du capital social de la SCTP dans la nouvelle compagnie Congo Airways pendant que la SCTP elle-même manque du matériel d'exploitation. Elle est contrainte par exemple de louer une autogrille au port de Matadi à 83 000 dollars américains par mois alors que cet engin neuf ne coûte que 300 000 dollars. Pourquoi ne pas autoriser la SCTP de se les procurer pour diminuer les dépenses, s'interrogent les syndicalistes de la SCTP. Quant à la dette sociale, les syndicalistes ont rejeté les données fournies par les CopyRep et exigent un travail à l'interne sur cette question pour des données fiables.
Merci, Innocent Olenga, pour tous ces détails. Lambert Osango, je rappelle que vous êtes président de l'intersyndicale de la SCTP, ex-ONATRA. On vient de suivre le reportage d'Innocent Olenga. Vous êtes contre le démembrement de votre entreprise tel que l'envisage le gouvernement. Pourquoi, brièvement?
Oui, simplement pour des raisons évidentes. Parce que le démembrement de la SCTP tel que envisagé par les gouvernements ne donne pas au fait des assurances, il n'y a aucune garantie, dès lors que si nous regardons la configuration de cette société, c'est une société de transport multimodal. Et intéressé au dossier, vous verrez que le gouvernement s'épanche sur une partie seulement de ces exploitations. Et ce sont les exploitations qui aujourd'hui génèrent plus de 80% de ses ressources financières. Et le reste est maintenant des exploitations. Qu'est-ce qu'elles deviennent? C'est là la grande question, c'est ce qui ne rassure pas, et tout le long du processus, tout le travail effectué et les données qui sont aujourd'hui publiées, ce ne sont pas des données authentiques, parce que nous en avons...
Vous pensez que ça a été trafiqué?
Pour nous, la base n'est pas crédible, et cela avait été reconnu le jeudi passé, quand nous étions au cabinet du Premier ministre, avec les préposés du gouvernement, cela avait été reconnu par le secrétaire exécutif intérimaire du CopyRep. qui avait clairement dit que les inventaires, par exemple, on était en train de les faire maintenant et que le chiffre ou les données financières, ils étaient en train de les attendre de la SCTP qui, depuis 4 ans, je reprends bien ces propos, n'avait pas encore transmis des données fiables. Alors nous avons posé la question de savoir, et alors les données qui sont reprises au tableau, qui aujourd'hui sont publiées, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cela? C'est à cet instant-là que Intamor avait été sollicité brutalement par les directeurs des cabinets du ministère du portefeuille pour qu'il y ait une harmonisation parce que la contradiction était flagrante et donc c'est une raison évidente qu'aujourd'hui pour garantir les intérêts de la société et des travailleurs, il est conséquent pour toutes les parties que nous partions sur des bases qui soient fiables, qui aient transparence et qui aient implication de toutes les parties concernées et non pas mener une étude, aller à la hâte en excluant d'autres parties.
La SCTP n'a pas été n'a pas pris part aux travaux.
Je suis beaucoup plus à l'aise de vous dire de la participation de syndicats représentatifs. Parce que là, ce qui nous concerne, nous, la SCTP, comme les préposés du gouvernement, ça constitue les banques patronales. Mais les côtés travailleurs, parce que dans une société, il y a 3 ressources principales. Il y a l'homme, dans les ressources humaines, nous avons les ressources financières, et puis nous avons le matériel. Mais ceux qui doivent se présenter, engager les discussions pour qu'ils soient déterminés, ne fût-ce que la part de la dette sociale ou les passifs sociaux, ceux-là doivent prendre part aux discussions. C'est pas un sujet tabou, parce que quelle que soit la rentabilité économique, lorsque cette dernière ne rencontre pas la satisfaction des populations, donc de l'homme, il ne faudrait même pas se vanter d'une telle rentabilité. Et c'est l'impression que nous avons aujourd'hui, parce qu'au plan social, la situation est celle que vous connaissez.
Et donc, vous vous opposez à cette décision du gouvernement, juste parce que le gouvernement ne vous donne pas assez de garanties, vous n'avez pas assez d'assurance, mais vous ne pensez pas que ça pourrait être une solution pour relever un peu, pour régler certains problèmes que connaît la société aujourd'hui?
Non, ce ne sera pas une solution, parce que nous avons des raisons évidentes. 1. Le travail tel qu'il se trouve au jour d'aujourd'hui est ignoré de la SCTP et encore pire de syndicats représentatifs à la SCTP. 2e chose, quand nous regardons les préalables tels que édictés par les législateurs dans la loi 008 portant des engagements de l'État, un des préalables, c'est le redressement de la société. Il vous souviendra, madame, qu'il y a quelques années, les COPIREP avaient procédé au recrutement de Progoza. Ça visait le redressement. Les résultats de ces recrutements qu'ils avaient opérés, loin de nous, loin de la SCTP, les résultats sur lesquels même le rapport d'évaluation que nous continuons d'exiger n'a jamais été présenté. Qui devrait répondre de cela? Quelle confiance pourrions-nous, dans ces cas-là, encore faire au COPIREP, qui a occasionné des débours importants à la société, c'est pas moins de 10 millions de dollars de GT. Autre illustration.
Et puisque la société connaît des difficultés aujourd'hui, oui. Comment vous pensez qu'elle pourrait...
J'en viens, madame. La société connaît des difficultés. Ces difficultés, ce sont celles qui se constatent dans presque la quasi-totalité des entreprises jadis publiques. Mais il faut bien situer aussi leurs responsabilités. La première responsabilité engage ou concerne l'État congolais, parce que les principes ou les suivis de la gestion au niveau de ces sociétés-là, qui devait en assurer les contrôles et éventuellement sanctionner. Aujourd'hui, je vous ai donné un cas qui, dans d'autres pays, ferait que l'on décide même des sanctions graves à l'encontre même du COPIREP. Comment comprendre que les États financiers, depuis 4 ans, que c'est au cours d'une réunion, après que les syndicats aient contesté, que l'on vienne affirmer devant les membres de cabinet qu'effectivement ces données-là n'étaient pas celles que la société aurait dû fournir.
Merci, monsieur Lambert Osango. Je vous redonne la parole tout à l'heure. Albert Lier, qui est responsable de la communication au comité de pilotage pour la réforme des entreprises du portefeuille. Monsieur Lier, comment vous réagissez par rapport à cette prise de position des syndicalistes de l'ONATRA qui sont contre les démembrements de leur entreprise telle que l'envisage le gouvernement et s'opposent à l'appel d'offres lancé par le gouvernement pour la privatisation des ports de Boma, Matadi, Kinshasa et du chemin de fer Matadi, Kinshasa.
Je voudrais tout de suite vous remercier pour l'opportunité que vous donnez enfin à des personnes qui ne sont pas des syndicalistes de parler à travers vous aux agents de l'ONU, de l'ex-ONATRA. Ça a toujours été le blocage absolu et ça c'est une occasion en or. Merci beaucoup. Je voudrais que les agents de la SCTP écoutent bien. Lorsque vous lisez l'avis que le gouvernement a publié, il n'est nulle part question de démembrement de leur société. Je ne sais pas où est-ce que le banc syndical a trouvé ça. L'avis que nous avons tous devant les yeux parle de transférer la gestion et l'exploitation. Ne parle pas d'actifs de la SCTP. Ne dit pas que la SCTP deviendra demain deux sociétés différentes. C'est du nulle part. Après la mise en concession, le directeur général de la SCTP restera le directeur général de la SCTP. Où est-ce que M. Osango a trouvé que le gouvernement a décidé de démembrer sa société? Il faut que les agents de la SCTP écoutent à la source. Le gros problème de la restructuration de la SCTP, c'est l'absence de communication vraie, véritable, sans atermoiement, sur les vraies choses qui vont se faire à la SCTP. Et lorsque M. Osango dit qu'ils ne sont pas au courant de ceux qui se préparent sur leurs entreprises,
mais ils n'ont pas été associés.
Mais nous connaissons, M. Osango et moi. Comment est-ce que nous connaissons? Nous avons participé à plusieurs ateliers ensemble. Nous avons bâti ensemble, non pas ensemble, nous avons bâti des programmes de communication. Nous sommes allés leur expliquer. Ils nous ont même dit, on va vous accompagner. Et puis en dernier, on va aller tout seul. Il faut qu'on apprenne à se dire la vérité pour ne pas tromper... Par rapport à ce projet, pour ne pas tromper ceux qui nous ont fait confiance. Je voudrais vite ouvrir une parenthèse sur Procosa. Des débours importants, oui, pas dans les caisses de la société. Progoza était financé par les bailleurs. Ce n'était pas financé par la SCTP, mais c'est juste une parenthèse. Donc j'aimerais vraiment que l'on replace les choses dans leur contexte. Le projet du gouvernement, c'est mettre en exploitation les activités, c'est écrit, portuaire, port de Matadi, port de Boma, le chemin de fer. Monsieur Osango vient...
Donc l'exploitation de ces ports sera confiée à une firme étrangère.
Moi j'adore les images, madame. Je vais vous donner une image. Vous êtes propriétaire d'un garage. Il y a une partie magasin de pièces de rechange, il y a une partie réparation. Vous décidez, parce que vous constatez qu'il y a des difficultés dans la gestion de cette affaire, vous décidez de faire appel à un spécialiste, étranger ou pas, à quelqu'un. Vous lui dites, mon cher ami, vous allez me gérer le garage, la partie réparation, vous allez gérer ça. Et vous me rendrez compte, sous telle et telle et telle condition, à discuter. Quant au magasin de pièces de rechange qui ne pose pas trop de problèmes, je vais m'en occuper tout seul. Est-ce que ce garage ne vous appartient plus? L'avez-vous privatisé?
Mais pourquoi ne pas confier l'exploitation des ports aux agents de l'ONATRA? Est-ce qu'il n'y a pas des compétences qui peuvent exploiter le port chemin de fer Kinshasa-Matadi?
Je pense que vous vouliez dire pourquoi ne pas faire confiance aux agents de l'ONATRA qui travaillent au port. Mais on n'a pas dit qu'on va chasser les agents de l'ONATRA du port. Je reprends mon exemple. Lorsque je décide de confier la partie garage à quelqu'un qui... À l'habitude du secteur, il a rencontré des difficultés, il a l'expérience. Il ne chasse pas mes agents. Il s'appuie sur eux, mais il leur dit, tiens, ici, voici comment on fait. j'ai eu une telle expérience par le passé, voici comment on fait. Deuxième chose, ce que je demande à ce monsieur-là, c'est notamment de participer à l'amélioration des infrastructures que je trouve là. Il doit avoir une certaine capacité financière que je n'ai pas. Et donc, je demande à quelqu'un...
Que vous ne trouvez pas parmi vos agents?
Non, j'ai parlé de finances.
Mmh, okay.
Que je n'ai pas. Et puisque je ne l'ai pas, mais je peux demander à quelqu'un qui les a. Lorsque M. Osango parle de la redevance logistique
ça
terrestre...
Ça veut dire que l'État n'a pas des moyens.
Mais l'État répète tous les jours qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour faire face à toutes les obligations d'un État. Vous savez, l'État a beaucoup de choses à faire. L'éducation, la santé, les questions de sécurité, ainsi de suite. Avant de venir ici sur votre plateau, j'étais encore au bureau, j'écoutais à la télévision le reportage sur le débat sur le budget. Mais tout le monde s'accorde à dire que l'État n'a pas de moyens pour tout faire. Le gouvernement essaye de faire ce qui est urgent à faire en insistant sur ses responsabilités régaliennes, l'éducation, la santé, ainsi de suite. Et donc le reste peut être confié au privé qui ont les moyens pour cela. Y a-t-il un mal à demander à quelqu'un qui dispose de l'expertise et des moyens? Y a-t-il un mal à leur demander de venir s'occuper de votre affaire, de vous aider et de vous payer des redevances pour cela, parce qu'on ne le dit pas assez. Lorsqu'on fait une concession, il y a des redevances qui sont payées. N'est-ce pas? Je vois que vous souhaitez m'interrompre,
oui,
je vous laisse le faire.
D'accord, je vais vous donner la parole, M. Osango. Israël Moutala, journaliste, analyste économique et politique, quelle est votre lecture à vous par rapport à cette situation?
Ma lecture est simple. Il faut que nous ayons le courage de réformer ce pays. L'Exonatra est une entreprise techniquement en faillite. On serait dans un pays sérieux et elle aurait déjà mis la clé sous le paillasson. Ça, c'est une vérité. Pléthore du personnel, les charges sont plus importantes que les recettes, vous avez un management qui n'est plus approprié, vous avez une dizaine de directions. Les autres sont farfelus parce que les activités ont cessé depuis belle lurette. Bref, l'Onatra est une entreprise malade. C'est un fait. Et face à une entreprise malade, il faut des remèdes. Et donc, une des solutions qu'on préconise, c'est justement la mise en concession. Une autre solution serait la privatisation, serait l'ouverture du capital. Bref, il y a plusieurs thérapeutiques. Mais ici, comme il s'agit de la question cruciale d'abord, des capitaux, parce que pour mener une réforme, il faut avoir des capitaux. Et nous sommes dans un pays pauvre où nous n'avons pas suffisamment de capitaux pour répondre à toutes les impératifs d'ordre économique. Donc la réforme s'impose dans une entreprise moribonde comme l'ex-Onatra. Et donc, vous avez une entreprise qui a des recettes mensuelles d'à peu près 10 millions de dollars. Vous avez un personnel qui est d'à peu près 12 000 travailleurs. Vous avez, je crois, de retraités ou de pensionnés qui sont aussi autour de 10 000. Donc, vous avez à peu près 22 000 personnes qui sont prises en charge par l'Onatra. La masse salariale est d'à peu près 5 millions de dollars. Le frais de fonctionnement et tout le reste à peu près 30 millions. Vous n'avez pas assez de moyens avec 10 millions de recettes pour faire des investissements suffisants pour relancer une entreprise comme celle-là. Et donc la réforme s'impose, ça saute sous les yeux, c'est du bon sens. Et donc, n'ayons pas peur de mots, ce dont la population congolaise a besoin, c'est des biens et des services de qualité. Peu importe la nature de l'entreprise qui fournit ce service-là. Cette entreprise peut être publique, elle peut être privée. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de prendre un train ici à Kinshasa à 7 heures et d'arriver à Matadi à 12 heures dans des bonnes conditions de sécurité et de confort. Donc ce service-là, pendant 10 ans, 20 ans, l'ONATA était capable de nous fournir ça. Donc je ne suis pas en mesure de faire des travaux de manutention pour un conteneur que je fais venir de Dubaï ou de Chine. C'est vrai. Donc, pour décharger mes marchandises, ou voilà, ça me prend plus de temps et c'est plus coûteux.
Donc, l'idée du gouvernement n'est pas mauvaise.
Elle n'est pas du tout mauvaise. Donc, prenons le temps d'expliquer. Mais la concession elle-même, c'est quoi? Donc, on va donner à des gens qui ont des capitaux et qui ont l'expertise technique pour gérer pendant un certain temps, une certaine durée, ces unités-là. moyennant une redevance. Mais je ne connais pas le délai parce qu'on n'a pas encore spécifié. Il y aura des cahiers de charges. Mais une concession, c'est à peu près 25 ans, 30 ans, 50 ans, on peut voir. On peut, l'État peut dire que pour le port de Latra, je confie à un groupe qui a les capitaux et qui a l'expertise, et puis moyennant une redevance à fixer. Voilà un peu l'idée.
Mais est-ce que la crainte des travailleurs ou des syndicalistes de l'Olatra n'est pas fondée lorsqu'on se rappelle de l'expérience Procosa?
La crainte est fondée. Est fondée en partie. Progosa, c'était justement pour essayer de redresser. Mais Progosa, c'était dans une vision de privatisation. On se disait que si on privatise les entreprises du portefeuille de l'État en l'État, elles vont pas coûter, on ne va pas les, comment dirais-je, les acheter à leur à un prix acceptable. Donc tu vois, tu as peut-être une voiture que tu veux dont tu veux te débarrasser. Elle a quelques pneus crevés, elle a une mauvaise peinture. Tu t'es dit, bon d'accord, j'achète quelques pneus, je retape un peu la carrosserie pour que tu la vendes au lieu que tu la vendes à 2 000 $, pour que tu la vendes à 5 000. C'était un peu ça. Donc faire en sorte que les entreprises en question soient vendables. Ici, nous ne sommes pas encore dans la privatisation ou dans l'ouverture du capital parce qu'il faut déterminer l'actif. Là aussi, il y a à boire et à manger pour déterminer l'actif de l'Onatra. Ici, il s'agit d'une concession. Ça veut dire que le patrimoine de l'Onatra demeure. Je parle là sur le point technique. Donc une concession, il n'y a pas de transfert de propriété. Donc l'État demeure propriétaire de l'entreprise. Il se fait que une portion de l'entreprise, certaines de ses activités, en l'occurrence ici l'exploitation de certaines unités, est confiée à un groupe. Mais ce groupe là-bas ne le fait pas Prodeo, l'État aussi ne le fait pas pour du beurre. Il encaisse une redevance annuelle et tout ça. Et au bout d'un certain temps, la concession, les unités mises en concession reviendront à l'État. Est-ce après 25 ans, est-ce après 30 ans, après 50 ans? On sait pas. Mais l'ambition de cette concession est de remettre à niveau les unités des protections et de les rentabiliser, de les rendre efficients. Et je pense que là, pour nous qui sommes les consommateurs, pour les consommateurs congolais, on a besoin des unités stratégiques de l'ONATRA pour qu'elles soient justement, efficientes, qu'elles soient efficaces.
Mais c'est ces firmes qui auront en charge l'exploitation des ports, est-ce que elles ont le droit aussi de licencier des agents on a travaillé d'engager d'autres?
Je comprends pas, je sais pas l'étendue de leur pouvoir de leur pouvoir, mais en principe il faut qu'on mette en adéquation quand même l'activité économique et le personnel. C'est ça le problème. Tu peux pas avoir, justement, tu as une compagnie comme par exemple tu as un seul bus Transco et tu engages 10 mécaniciens. Bon, si tu as par exemple un parc automobile de par exemple une centaine de bus, tu peux avoir 10 mécaniciens. Mais si tu en as un seul, pourquoi tu prendrais 10 mécaniciens? Il faut qu'on mette en adéquation le personnel et l'activité économique. Pourquoi aujourd'hui les gens se plaignent? À l'époque, l'Onatra était prospère. Pourquoi? Parce que, comme l'a dit M. Osango ici, c'est une entreprise de transport multimodal. Et vous allez voir que la seule activité qui rapporte dessous, c'est le port d'Onatra. C'est le cœur voilà. Et donc, toutes les autres, entre guillemets, directions mortes ou toutes les autres activités reposent essentiellement sur ça. Alors, la question, c'est de faire en sorte que toutes les autres branches d'activité créent aussi de la richesse, génèrent leur propre richesse, au lieu justement de s'appuyer uniquement sur le port. C'est devenu comme une société de rente.
Merci Israël Moutala. Monsieur Sango, avant de réagir au propos de M. Lieke, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Patient Biamungu Vukuba depuis la ville province de Kinshasa. Je pense que ça serait une décision à saluer par les travailleurs de cette société qui se plaignent des mauvaises conditions de travail par leur actuel employeur qui est l'État congolais. S'y opposer, n'est-il pas vouloir la chose et son contraire? Ne craint-il pas peut-être la réforme et les contrôles qu'apportera les nouveaux patrons qui leur est jusque-là inconnu, qui déboucheront au démantèlement des mafias orchestrées par eux-mêmes dans ces services de l'État face à l'impunité à leur endroit?
Comment vous répondez à cet auditeur?
Madame, la réponse est bien simple. Vous savez, un volet important qui est évoqué, c'est celui que nous n'avons cessé, nous, banque syndicale, de décrier, l'impunité qui a le pouvoir de sanctionner. Le mandataire qui ont succédé et qui aujourd'hui ont conduit l'entreprise à la situation qui est la sienne aujourd'hui. Est-ce qu'on peut nous dire lesquels a été véritablement sanctionné? Pourquoi aujourd'hui l'autorité qui avait les pouvoirs et qui a encore ses pouvoirs de sanctionner vient plutôt comme pour dénoncer, mais ne commence pas par imposer des réparations? Qui est victime de cette situation? Mais c'est justement la population congolaise et les travailleurs. Et madame, je vous dis, ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, la décision, et nous l'avons toujours dit, et vous l'avez repris dans l'élément à l'introduction de cette émission, les banques syndicales n'ont jamais dit non à la réforme. Mais la forme qui est adoptée, c'est une forme qui pose problème. Pour des raisons évidentes. Excusez-moi, madame, d'abord de préciser une vérité. Progoza a été prise en charge, payée sur fonds propres de recettes de la SETP. Je mets quiconque au défi de nous démontrer le contraire, parce que les états financiers en témoignent. Donc, ce que venait de dire les porte-parole du COPIREP, c'est vraiment du mensonge cousu de toutes pièces. Deuxième chose, pourquoi, si tel était le cas, l'évaluation de ce qu'a été la gestion par Progoza de l'ex-Sonatra n'est toujours pas rendue publique. Mais les gens devraient quand même avoir un peu de pudeur vis-à-vis de l'opinion et vis-à-vis des travailleurs. J'en viens maintenant au démenti, comme quoi il ne s'agirait pas d'un démembrement. Là, vous avez un pan de l'avis d'appel d'offres qui a été lancé. Une des questions importantes, parce qu'il s'agit de la concession. Lorsqu'il s'agit de la concession, et là j'apprécie l'intervention de l'analyste sur un volet, le concessionnaire qui vient aura la liberté de recruter le personnel. Parmi les personnels à recruter, il peut aussi recourir à ceux qui faisaient partie de l'ex-SCTP. Maintenant, mettez-vous à la place du banc syndical. Parce que telle est l'hypothèse, et c'est cette hypothèse que nous avions réfutée lorsque COPIREP est venu au mois de mai, et c'est à cette occasion que nous avons eu le premier exposé sur quelques éléments de ce qu'ils ont présenté comme cahier des charges. Et nous leur avions dit, revenons à la loi, parce qu'ils disent qu'aucun travailleur, et il l'a répété ici, il a dit qu'aucun travailleur ne perdrait son emploi. N'est-ce pas? Mais l'analyste vient de vous dire, qui accepterait aujourd'hui de prendre cette gestion, qui est ce concessionnaire, qui reprendrait cela et ne pas réduire les effectifs? Parce que le rapport même du consultant CPCS, recruté par les COPIREP, dans son rapport, et présenté même par les COPIREP, des 8400 et quelques agents, il n'en resterait plus que 3400. Les près de 5000 et quelques, suivant quels critères? Tout cela, c'est des choses qui ne sont pas dites. Et qui est ce syndicat-là sérieux qui accepterait une telle décision lorsqu'il n'y a pas transparence, lorsqu'il n'y a aucune garantie? Pourquoi on continue à cacher? Pourquoi refuse-t-on que les vrais débats, les échanges constructifs soient engagés? Ce n'est pas parce qu'on est banque syndicale qu'on a peur de la réforme, mais nous voulons avoir un cadre approprié, en toute transparence, et répliquer aux allégations que peut-être le gouvernement ou les copierait pourraient. Pourquoi on élude ces débats, vouloir faire cavalier seul et
c'est
attendre...
C'est vous qui avez décidé de faire cavalier seul.
Non, c'est eux. Et attendre impliquer les syndicats après qu'ils auront déjà choisi pour venir négocier. Qui est celui-là qui viendrait prendre sans savoir à quoi s'en tenir? Et lorsque nous parlons du démembrement, mais je pense que nous devons savoir de quoi nous parlons. J'ai bien précisé, l'ONATRA est une société de transport multimodal. Et lorsqu'on parle de la rentabilité, il y a la rentabilité économique, il y a aussi la rentabilité sociale. Qui aujourd'hui parmi les privés depuis longtemps qu'on a libéralisé le trafic fluvial. Qui est ce privé qui a organisé le transport voyageurs et rentré dans ses dépenses, dans ses charges? Il n'y a personne. Donc sur ces tronçons-là, il y a les jeux d'équilibre. Il faut qu'il y ait des exploitations qui produisent un peu plus et permettre à l'État de desservir la population, donc répondre à cet autre impératif qui s'impose à tout gouvernement, d'organiser le transport de ces populations qui viendraient prendre. Et également, pourquoi on ne parle pas du port des bananes? S'il ne s'agit pas d'un démembrement, il faut qu'on dise la vérité aux Congolais. Les COPIREP a démontré ses limites.
Et c'est quoi la vérité que le gouvernement nous cache, ou le COPIREP?
Oui, la vérité est cachée parce que nous n'avons jamais été avec les COPIREP autour d'une table et parler véritablement de cette question. Il ne faudrait pas qu'on trompe les gens. Vous venez, vous pouvez venir quelque part, vous faites un exposé, vous repartez, ça ne vaut pas exposer l'évaluation.
Merci.
Il faut savoir de quoi nous parlons.
Merci, monsieur Sango. On va vous redonner la parole. Monsieur Lié, qui a aussi une réaction pour vous, qui nous vient de Kananga, au Kasaï central.
Je vous appelle à la partie de la ville de Kananga, province du Kasaï central. Je suis tout à fait d'accord avec les travailleurs de la SETP, ex-ONATRA, car de membres de cette grande société, comme le pense le gouvernement congolais, c'est la fragiliser davantage. Ainsi, nous nous demandons quelles sont les principales motivations qui ont animé les autorités congolaises à concevoir une pareille initiative. Quelle sera donc la part du peuple en général et celle des actuels agents de cette dernière après l'effectivité de la démarche de privatisation partielle?
Trois questions, hein. La motivation, la part du peuple, la part des agents. Je vais commencer par la part du peuple. Citez-moi un seul Congolais qui aujourd'hui se dit satisfait des services rendus par la SETP. Je crois qu'il n'y en a pas. Il n'y a que le syndicat pour se satisfaire du fonctionnement actuel de cette entreprise. Donc la part du Congolais est simple, et Israël le disait tout à l'heure. Le problème du peuple, c'est le service de qualité. L'avons-nous? On ne l'a pas.
Mais si le gouvernement ne donne pas de moyens, comment voulez-vous que ce, cette entreprise vous fournisse un service de qualité?
Le gouvernement vous dit, je n'ai pas de moyens, je vais aller chercher les moyens là où on les trouve au 21e siècle, chez les privés. Voilà un gouvernement responsable, madame. Il n'a pas les moyens, il va aller les chercher là où on les trouve. Première chose. Donc, pour le peuple, c'est un service de qualité qu'on n'a pas aujourd'hui. Israël disait, il veut prendre son train à 7 heures, arriver à midi. Ce n'est que 300 kilomètres. Hein. La part de l'agent de l'ONATRA, de l'ex-ONATRA, personne n'a dit qu'on va le mettre à la porte. Vous pensez que le privé qui vient, dans l'exemple de mon garage, là, le privé qui vient gérer mon garage, il va chasser tous les mécaniciens? Pourquoi? Il ne faut pas dénaturer ce que disait Israël, comme semble le dénaturer Lambert. Israël n'a pas dit que le type là va nécessairement recruter ou nécessairement chasser, il n'a pas dit ça. Il dit qu'il va faire une adéquation entre le volume des activités et le personnel. Et ça, c'est un comportement de management responsable. Maintenant, il est fort possible que, s'agissant du port de Matadi par exemple, qu'on se rende compte qu'il n'y a pas pléthore. Nous sommes en train de parler d'une société où il n'y a pas que le port de Matadi. Il y a Kinshasa, le bâtiment administratif, il y a Kisangani, il est beau, ainsi de suite. Il n'est pas dit que là où on va faire la concession, il y a pléthore. Peut-être pas. Et je me souviens, je vais me permettre de vous lire un morceau de lettre.
Est-ce que vous pouvez répondre d'abord à la dernière question sur les motivations?
Les motivations, on les a expliquées ici. Et je me tue à le répéter. Et le syndicat de la SETP le sait. Le gouvernement a décidé de transférer la gestion, notamment pour profiter du financement des partenaires privés. Parce que lui, il n'en a pas. C'est une motivation essentielle.
Alors,
s'il vous plaît. Et cela pour permettre que le partenaire privé qui arrive Je ne voudrais pas que vous m'interrompiez cette fois-ci, j'ai les yeux sur l'horloge. Le partenaire financier qui arrive...
Il faut réagir aussi au propos de M. Osango. Il a évoqué le cas du port de Banana. Pourquoi ce port n'est pas concerné, n'est pas concerné par cet appel d'offres?
Vous voulez qu'on parle de tout en même temps?
Non, répondez brièvement à sa question.
Mais c'est ça ma réponse. Je fais un programme pour réhabiliter, redresser l'exploitation d'une société. Je peux décider de commencer par X ou par Y, c'est un choix. Je fais le choix de commencer par ce périmètre-là, en me disant que peut-être ce périmètre-là générera, lorsque réhabilité, suffisamment de ressources pour que je m'occupe du reste. Mais je vais continuer. Vous voulez qu'on laisse la SCTP dans cet état? Mais regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Il y a quelques années, les gros bateaux venaient de l'étranger accoster à Matadi. Et de Matadi, des petits bateaux allaient servir les ports avoisinants. Déjà à l'époque, on se disait il faut remettre les infrastructures à niveau. Et déjà à l'époque, les syndicats s'y sont opposés. Aujourd'hui, plusieurs années plus tard, les bateaux n'accostent plus chez nous. Ils accostent là où on amenait les petits. Et ça fait le mouvement inverse. Attendons encore quelques années, il n'y aura plus rien. Est-ce que le Congolais responsable ne doit pas flairer ce danger-là et le dévancer?
Alors la question sur Procosa, le bilan de la gestion de Procosa, pourquoi ça n'a jamais été rendu public? C'est une question posée par M. Osango.
Mais ça veut dire quoi le bilan de Procosa? Madame, sur ce même plateau, je pense que ce n'était pas vous, Israël était là, nous avons débattu de la réforme, n'est-ce pas Israël? Nous avons débattu sur ce même plateau, allez voir vos archives du Okapi. L'émission, je crois, était préparée avec le journaliste avec qui on était là tout à l'heure. Les rapports sont publiés chaque année. Lisez-les. Okapi reçoit du Copirep chaque année son rapport annuel. Celui de 2008 reprend les avancées faites par Procosa. Mais je vais revenir à M. Osango qui dit, mais écoutez, on s'est aperçu que depuis 4 ans, il n'y a pas d'état financier. Mais M. Osango, le syndicat a notamment pour rôle de dire à ses dirigeants, oh là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Comment on peut admettre, s'il vous plaît, comment
on peut... Il nous reste 8 minutes, je vais prendre
30 secondes.
Allez-y.
Comment on peut admettre qu'il n'y ait pas d'état financier dans une entreprise? Et on est syndicaliste, on regarde.
Merci. Israël Moutala, je vais vous donner la parole, M. Sango. Israël Moutala, on va prendre aussi pour vous cette réaction qui nous vient de Butembo, au Nord Kivu.
Bonjour à Butembo, province du Nord Kivu. Je salue la position des agents de la Société commerciale des transports et des ports. À mon avis, l'État congolais devra d'abord faire une évaluation si d'autres entreprises transformées en caractère commercial avant d'exiger ou de créer une autre. Pourquoi le gouvernement congolais cherche à tout prix à privatiser tous les secteurs alors qu'il devra plutôt les protéger en donnant les moyens pour promouvoir le secteur public? N'est-ce pas là une fuite de responsabilité de la part du gouvernement congolais?
Réaction Israël.
Bon, ma réaction est. Elle est mitigée. Je reconnais que dans le malheur de l'Onatra d'aujourd'hui, il y a une part importante du gouvernement, c'est-à-dire les gouvernements successifs. Les nominations de managers n'ont pas été à la hauteur. Il y a eu beaucoup d'interférences politiques. J'ai vu le conseil d'administration sortant de Mwenze, celui d'avant, sous leur Bassaoula, et bien avant, et tout ça. J'ai vu que quand même, il y avait beaucoup de légèreté de pouvoir public dans la nomination des managers publics. Et tout ça participe à affaiblir les entreprises publiques. Aujourd'hui, si l'ONATA était bien géré, et la question même de la mise en concession ne se poserait pas. La question de la privatisation n'est pas... Chaque fois que l'on pose une question de privatisation et de mise en concession, c'est qu'il y a un problème managérial profond. Et le constat est sans appel. Les entreprises publiques ont presque toutes failli à leur...
Il n'y a pas de contrôle, on ne sanctionne pas.
Voilà. Et donc, il faudra absolument une révolution managériale. managériale. Absolument, il faut une révolution managériale pour savoir que un investissement, comment est-ce qu'on le rentabilise. Donc bref, il y a cette question là managériale qui est importante. Et j'apprécie le débat qu'il y a autour de cette table entre le COPIREP et le Banque syndicale de l'Onavarata. Ça montre qu'on a besoin d'un débat. Et c'est un débat de qualité. Et ce débat doit exister justement. Et je suis content aussi du fait que tout le monde est d'accord ici sur la pertinence de la réforme. Mais je vois que les divergences se sont plutôt sur la forme. Mais la réforme de l'ONATRA, elle s'impose, sinon l'ONATRA va mourir. Pour parler des concessions, j'ai vu que les autres pays qui ont quand même expérimenté les concessions ne sont pas moins patriotiques, leurs dirigeants ne sont pas moins patriotiques, ils ne sont pas des vendus. Hein, ça marche très bien en Côte d'Ivoire. C'est un État prospère où on peut facilement acheminer facilement de la marchandise, la dédouaner facilement. Bref, je pense que la concession là-bas a quand même réussi, elle a produit des résultats. Et donc, je vais dire à notre auditeur ici que les moyens de l'État sont limités. Regardez les ressources propres de l'État, c'est à peine 5 milliards. Et donc, avec 5 milliards, c'est des broutilles, c'est des cacahuètes. On ne peut pas, nos besoins en financement des infrastructures, se chiffrent en termes de centaines de millions de dollars. Donc, c'est à peu près, il faut de centaines de milliards de dollars. Donc, il faut à peu près 100 à 150 milliards de dollars pour investir dans tous les secteurs. Et l'État ne peut pas. Et donc, l'État a résolu de s'appuyer sur le secteur privé pour essayer de moderniser toutes les infrastructures, notamment de transport, qui sont cruciales comme poche de création de richesses. Et donc, l'État doit absolument d'abord se recentrer sur ses missions régaliennes. Elle a d'abord du mal, justement, à mieux les accomplir et à essayer de dégager des marges pour les privés dans le secteur.
Donc les syndicalistes doivent accepter cette idée du gouvernement pour pouvoir pour que l'entreprise puisse renaître, vu qu'elle était presque morte, cette entreprise société.
Oui, ici cette entreprise, je veux dire que les syndicalistes, moi, je comprends les syndicalistes, ils ne veulent pas perdre leur emploi et c'est louable, mais un emploi, ça se justifie, mais ils n'ont pas été recyclés pour la plupart. Mais si pour la plupart, d'abord, je vois qu'à l'ONATRA aussi, c'est qu'on a recruté sur base familiale. Ça veut dire que tu as un parent qui est mort, tu n'as pas les qualifications, tu entres à l'ONATRA. Mais il faut qu'on mette fin à ces pratiques. Il n'y a que dans les entreprises publiques, la plupart, où il y a des conventions collectives qui stipulent que quand un parent meurt, on prend son fils ou sa fille qui le remplace. Et bref, tout ça, ça impacte sur la performance des entreprises. Il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui, qu'elles n'arrivent pas à rendre les services qu'on attend d'elles.
Merci, Israël Moutalan. On va considérer ça aussi comme votre conclusion. Il nous reste moins de 3 minutes pour mettre en place cette émission. Monsieur Lambert Osango, un mot pour conclure.
Oui, madame. Vous savez, les débats de ce soir étaient nécessaires pour que les Congolais, comme les travailleurs de l'ONATRA, comprennent qu'il y a dans les chefs du COPIREP une volonté affichée de, comme qui dirait, précipiter les choses et ne rien garantir. Une question a été posée tout à l'heure par les porte-parole du COPIREP. Quelle est la part du Congolais? Mais justement, la part du Congolais n'est pas là, d'autant plus que l'État lui-même, quel est son comportement vis-à-vis de ces entreprises? Est-ce que l'État paye les prestations dont il est bénéficiaire? Comment expliquer que dans un pays où l'on voudrait que ces entreprises se redressent, d'une décision, par exemple, du Premier ministre, la dette, dont la créance de la société sur l'État, merci, annulée d'un tour de la main? Deuxième, un troisième élément, excusez-moi.
C'est le dernier, je crois. Parce
oui, mais il n'y a pas de problème. Est-ce normal? Une entreprise comme la SCTP, qui a plus de 40 millions de recettes recouvrées, justement pour remonter ses exploitations, mais qui est obligée de continuer à louer des autogrues, n'est-ce pas, qui coûterait plus ou moins 300 000 dollars et mensuellement il faut décaisser 83 000
merci,
continuer à louer plutôt que d'acheter.
Merci M. Osango, on va revenir sur ce débat, on va revenir sur ce débat, on n'a plus beaucoup de temps.
Voilà,
merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Lieke, conclusion.
Je vais essayer de gérer mes 3 minutes en disant ceci au travailleur.
Pas 3 minutes, 1 minute.
Ah non, il en a eu 3. Je vais essayer de gérer ma minute en disant ceci au travailleur de la SCTP. Il n'y a aucune crainte à avoir de la concession. La ministre avait écrit, je me souviens, en sentant la délégation syndicale, pour assurer que la mise en concession n'est pas une privatisation des actifs de l'État. Ça n'équivaut pas à un licenciement. Elle l'a écrit. que s'il y a un plan social, elle sera subordonnée à la signature d'un accord avec M. Osango, les partenaires sociaux ici présents, et le délégué des travailleurs sera présent à tous les niveaux du processus de mise en concession. C'est une assurance qui leur a été donnée. Je voudrais lever un dernier petit détail. La RLT n'appartient pas à la SCTP, d'après ce que je sais.
Merci.
C'est une taxe levée par le gouvernement.
Merci, M. Lieke. Merci, M. Lieke. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de programme sur la fréquence.